Bonsoir à tous, vous écoutez Radio Panique et c'est Panique sur la ville. Aujourd'hui, on va parler d'un podcast qui s'intitule « Pourquoi c'est comme ça ?». On va commencer avec des questions à la réalisatrice et à l'autrice et aux réalisatrices qui sont présentes avec nous. Et ensuite, on diffusera le podcast et on reviendra après avec d'autres questions. On va commencer par les présenter. Nous avons donc Laurence de Harin qui est l'autrice. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ?
Oui, alors je ne suis pas l'autrice, je suis la réalisatrice du podcast. Les trois autres copines sont...
Il y a une erreur.
C'est pas grave, sont autrices. Donc voilà, moi je suis donc la réalisatrice du podcast. Sur le côté, j'ai une boîte de production qui s'appelle Supernova Film Lab, qui a du coup coproduit ce podcast avec Corps Écrit. Et voilà, je ne sais pas trop comment me présenter plus.
Merci. Nous avons aussi donc une des autrices qui est Charline Marbet. Bonsoir. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ?
Oui, avec plaisir. En quelques mots, c'est toujours difficile un petit peu. Hein, et en plus, qu'est-ce qui est important de dire ou pas ? Je m'appelle Charline ou Charles pour les proches. Je suis une des autrices avec cette fabuleuse équipe. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Si je dois me présenter ici maintenant, je dirais que je me définis comme féministe. Je crois que je vais juste dire ça.
Merci. Oh,
moi aussi. Moi aussi.
Alors, nous avons Lise Mernier, qui est aussi une des autrices du podcast. Bonsoir.
Bonsoir.
Est-ce que tu pourrais te présenter ?
Oui, avec plaisir. Donc, moi, c'est Lise Mernier, et donc aussi autrice de ce podcast, avec mes chers collègues ici présentes. Je représente Corps Écrit, qui est la SBL qui a porté le projet, donc en coproduction avec Supernova Film Lab, qui est une ASBL d'éducation permanente, qui travaille sur les questions de genre, sexualité et famille. Donc je suis chargée de projet dans cet asso. Et à côté de ça, les autres ne sont pas trop définis, mais je vais quand même le faire. Je fais aussi, je suis une formation de thérapeute psychocorporelle. C'est aussi un peu une manière de me définir. Et je suis féministe, oui. En tout cas, je suis en travail pour l'être.
Merci. Et enfin, Giada Ferrero, bonsoir.
Bonsoir.
Est-ce que tu peux aussi te présenter en quelques mots ?
Oui, donc moi c'est Giada Ferrero dans le podcast Gigi, parce qu'on m'appelle comme ça en Belgique. La Belgique est le pays où je vis depuis 10 ans. Bon là on est en pause depuis quelques mois. Je suis retournée vivre en Italie, mais je suis là pour l'émission avec grand plaisir. Je suis amie et collègue de cette équipe incroyable de femmes et personnes fantastiques. Et je porte ce projet dans mon cœur depuis 2 ans avec elle. Et j'en suis vraiment très fière.
Merci. Comme je l'ai dit, on va commencer avec quelques questions. Et ensuite, on diffusera le podcast. Et on reviendra après avec encore d'autres questions. D'abord, est-ce que vous pourriez nous parler de votre podcast en quelques mots ?
Eh bien,
est-ce que quelqu'un veut se lancer ou quoi ?
En tout cas, déjà, ce qui définit, donc on l'a appelé, donc pourquoi c'est comme ça, le podcast qui vulgarise les théories féministes. Alors ça a été un peu un dilemme aussi au moment de définir son contenu. De voir qu'est-ce qu'on vulgarisait, jusqu'où et comment être dans l'approche de plusieurs facteurs, comment être intersectionnel, exactement, comment intégrer tout le monde sans pour autant exclure ou... Donc voilà, c'était quand même un gros questionnement. Donc comment définir le podcast c'est...
Vas-y, Charline.
L'idée, donc oui, de vulgariser les outils féministes, et c'était une idée que le podcast lui-même soit un outil qui puisse se passer d'oreille en oreille pour des personnes qui voudraient expliquer ou qui voudraient avoir un support pour expliquer les théories féministes.
Et oui, moi je rajouterais juste qu'on est parti de cette idée d'avoir des questions qui étaient des questions un peu simplistes, entre guillemets, ou des questions un peu, j'ai envie de dire niais, mais c'est pas ça le mot. Si, niais, ok.
Si on peut le dire.
qui sont des questions, en fait, qui nous ont un peu ouvert les yeux sur les questions féministes, et où tout à coup on s'est dit, tiens, mais en fait, pourquoi il y a toujours plus de filles aux toilettes des femmes que des hommes? Et en fait, en allant creuser ces questions, on a découvert l'énorme champ infinissable des questions, des enjeux, des réflexions, des féminismes, que je mettrai au pluriel parce qu'il y en a plusieurs. Et du coup, on avait envie de partir de cette base-là aussi pour que ce soit un outil qui puisse en fait, être le début d'une réflexion pour les personnes et pour, avoir, pour que ces personnes, les auditorices, aient envie d'aller plus loin sur ces thématiques. Donc c'est un peu ça l'idée, c'est qu'en même temps ça puisse être l'esquisse du début d'une réflexion, mais qu'on pousse quand même la réflexion au plus loin possible pour être les plus inclusives possibles. C'est ce qu'on a essayé de faire en tout cas.
Mais pourquoi avoir choisi ce thème des théories féministes? Parce qu'on pourrait vulgariser plein d'autres théories qui ne sont pas forcément féministes. Pourquoi ce sujet-là?
Eh bien... Je crois qu'il y a 4 féministes autour de la table ici.
Oui, et disons que, et je crois que je parle au nom de toutes ici, le féminisme apporte des réflexions et un regard nouvel sur la société. Alors de théories, c'est vrai, il y en a eu plein de théories faites par des hommes blancs, occidentaux, bourgeois. Or, avec les théories féministes, qui regroupent beaucoup de branches et de nuances, on a trouvé une nouvelle façon de regarder le monde.
D'accord. Je me demandais, mais j'ai eu en partie la réponse, vous vous êtes posé des questions dans la vie de tous les jours. Je me demandais si vous étiez chercheuse, mais je ne pense pas. Est-ce que votre parcours a quand même un lien avec les théories féministes, les féminismes?
Je pense que ça dépend, c'est quoi la définition de chercheur-chercheuse, tu vois? Est-ce qu'être chercheur-chercheuse, c'est juste être à l'académie, à l'université, ou est-ce qu'en fait, dans notre expérience de tous les jours, on ne fait pas de la recherche aussi? Ça, c'est une première chose. Après, oui, on a chacune des expériences académiques, disons, diverses, quoi, dont certaines d'entre nous un master en études de genre, où du coup, on a suivi des travaux... de recherche, disons, entre guillemets, reconnue. Mais les théories féministes aussi, c'est une remise en question de la hiérarchie des savoirs. Donc, c'est pour ça que, est-ce qu'on est du milieu de la recherche? Moi, j'aurais tendance à dire que oui, même si on ne s'inscrit pas comme les normes universitaires voudraient, quoi, tu vois. Mais ça, c'est mon point de vue perso, là.
Ouais, ce qui est sûr, c'est qu'on a nos parcours, en tout cas, qui nous ont clairement menés là où on est, mais qu'on passe aussi, je pense, beaucoup de temps à lire, écouter des podcasts, se renseigner, déconstruire, reconstruire. Et donc, oui, quelque part, on recherche, quoi.
D'accord. Pourquoi vous avez choisi d'utiliser le podcast et pas un autre moyen de vulgariser les théories féministes?
Alors, ça, c'était effectivement une réflexion qu'on a eue au départ. On avait... dans l'idée aussi de faire des petites vidéos, mais alors c'était assez court. Et en fait, je trouve que le podcast est finalement un outil qui permet de développer, peut-être plus que d'autres. En plus, développer des théories, c'est pas évident à mettre en image. On pourrait, mais ça demande beaucoup de boulot. Et du coup, c'est vrai que le podcast, je pense qu'on en écoute toutes ici, certaines plus que d'autres, je crois. Mais en tout cas, ça nous semblait être un terrain vraiment OK pour accueillir ce genre de contenu. Enfin, en tout cas, moi, je trouve, hein, je sais pas vous, mais c'est venu assez naturellement, finalement... cette idée de podcast.
Ouais, moi je dirais aussi qu'il y a vraiment cet enjeu dans les réflexions féministes de prendre la place et prendre la voix. Mmh. Et que c'est aussi un médium qui permet ça, quoi, de prendre cette voix-là qu'on nous donne pas assez dans la société, qu'on nous enlève souvent, on est souvent quand même silencié ou on n'a pas l'espace de parole. Et donc c'était important pour nous, enfin, ça, c'était aussi émancipant je pense, enfin, et ça nous a aussi nous-mêmes challengés de pouvoir prendre cette voie-là, d'ailleurs être ici à la radio aussi je crois, en tout cas pour moi. Et on avait envie de ça et on a eu aussi envie de donner cette voix à d'autres personnes et c'est pour ça qu'on a fait aussi des interviews pour chaque épisode, pour donner aussi de l'espace de prise de parole à des personnes qui en ont moins, qui en ont peu, qui en ont parfois pas du tout.
Et un podcast, c'est mieux qu'un livre? Vous voulez toucher d'autres personnes avec le podcast plutôt qu'avec un livre, par exemple?
Je crois que ça touche des publics différents, quoi, tu vois. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est moins bien?
Ouais, moi, je pense pas que ce soit mieux ou moins. Enfin, en tout cas, c'est pas ça la question. Je pense que le podcast, déjà, c'est gratuit, c'est accessible. Mmh. Enfin, en tout cas, il y a des gens qui n'aiment pas lire et donc qui ne savent pas lire. Il y a des gens qui n'ont pas ça dans leurs habitudes, dans leur culture. Bah, le podcast aussi, très probablement. Mais en tout cas, j'ai l'impression que ça peut-être a un peu plus de potentiel de toucher du monde. Peut-être. Je ne sais pas c'est quoi exactement les statistiques. Je pense encore mieux les séries sur Netflix, mais ça, c'est un autre budget, quoi.
Pour la saison 2.
Ouais.
Et comment vous vous y êtes prise, justement, pour réaliser ce podcast? Comment vous avez diviser le podcast en épisodes, comment vous avez choisi les thématiques de chaque épisode, comment vous vous y êtes prise pour rechercher des personnes à interviewer?
Alors, il y a beaucoup de parties dans cette question, je crois. Mais en tout cas, on s'est divisé le travail d'une certaine manière. Donc Charles, Gigi et Lise ont vraiment été actives dans la recherche, dans les sources, dans l'écriture. Enfin, si vous êtes OK que je raconte le processus.
Bien sûr.
Mais donc en gros, il y a eu vraiment des mois et des mois d'écriture de leur côté. C'était un travail monstrueux parce que aller dire à des universitaires de vulgariser une théorie. Donc du coup, elles sont arrivées avec énormément de richesse en fait dans le contenu. Et moi, j'ai vraiment joué un rôle horrible de dire, écoute, on a 20 minutes ou 30 à la rigueur. Parce qu'en plus, on partait d'une volonté de faire 8 minutes, mais qui est vite passée à la trappe. Donc, en tout cas, ce processus de réalisation a déjà commencé dès le début, ensemble. Et donc, voilà, après, je laisse mes collègues répondre pour la suite, parce que c'est elles qui ont écrit.
Attends, c'était quoi la suite de la question, Hélène?
Pourquoi 10 épisodes?
Comment vous vous êtes prise pour réaliser le podcast? Donc, ça, en termes de personnes à interviewer, segmentation du podcast en plusieurs épisodes, les ressources.
Non, j'allais dire, vas-y, Gigi. Ouais.
Donc, on a cité quelques-uns des arguments dont on voulait parler. On a d'autres choses. C'est pas la théorie qui explique tous les mouvements féministes qui existent, tout ce qu'on peut dire. Enfin, c'est juste quelques sujets qu'on trouvait intéressants. Voilà, et comme Lise a dit tantôt, c'est des sujets qui nous ont intéressés au début de notre formation féministe, disons. Aux arbores, on dit ça. Ça existe, ce mot? Non, peut-être pas.
C'est pas mal.
Je sais pas, ça sonne intelligent.
Oui, j'aime bien.
Oui. et les 10 épisodes, je sais pas, je me rappelle plus exactement pourquoi 10, pourquoi le nombre 10. Ça fait un peu ordonné comme ça, non? C'est mieux que 8.
Moi, j'aimais bien 8. Mais en soi, on a aussi calculé en fonction du budget qu'on avait, tout simplement. Et je crois qu'on est arrivé, on avait fait un brainstorming avec des questions qu'on se posait, et en fait, on est arrivé assez facilement, je crois, à ce nombre, même s'il existe 1000 autres questions à se poser. Mais en fait, chaque épisode, chaque question reflète un thème particulier. Et donc, c'était surtout sur ces thèmes qu'on a commencé les recherches. Par exemple, la question pourquoi les toilettes pour femmes sont-elles plus longues que celles des hommes? En fait, ça parle de l'espace, du genre et de l'espace public. Pourquoi les mannequins de réanimation sont des bustes d'hommes? Ça parle du genre et de la santé, du point de vue situé dans la science. Donc, en fait, chaque épisode a son thème à lui. Et la question n'est qu'un prétexte, finalement. Donc, c'était les thèmes, surtout, qui nous semblaient importants.
Ouais, puis j'ajouterais qu'en fait, au tout début, on avait commencé par un épisode. C'était celui-là, c'est la division sexuelle du travail, qu'on va écouter d'ailleurs, je pense. Et en fait, il recoupait blindé de thèmes. Parce que c'est ça aussi, les théories féministes, c'est que tout se croise tout le temps, dans tout, partout, parce que le genre est partout. Et donc, en fait, de vulgariser ça et de distinguer à chaque fois un thème, c'était vraiment super compliqué. Et même ici, si on a mis des thèmes et tout ça, ça reste que... Enfin, c'est jamais vraiment juste un seul thème, quoi. Lisou, tu voulais dire quelque chose ? Oh, pardon.
Moi, je voulais juste ajouter qu'on le dit dans l'intro du podcast, qu'ils ont été pensés pour être écoutés l'un à la suite de l'autre. Parce que voilà, dans le premier épisode, on définit des éléments qui sont importants pour comprendre le deuxième, mais en fait, ça vaut pour tous les sujets, les épisodes eux-mêmes ont tellement de thèmes et de définitions et ouvrent tellement de portes que, enfin, il nous aurait fallu 3 jours d'épisodes, enfin 3 jours de longueur, ouais. Juste pour chaque épisode. Pour parler de beaucoup de choses.
Est-ce que ça a été difficile, justement, de réaliser des épisodes d'une durée assez courte pour vulgariser
une théorie ? Ouais, c'était super difficile parce qu'on avait vraiment envie, en fait... Bon, je pense que c'est un peu souvent le problème quand on crée ce genre de choses, mais on avait envie de toucher tout le monde. On avait envie d'exclure personne, quoi. Et du coup, on avait envie et de faire un podcast hyper vulgarisant pour que tout le monde puisse s'y accrocher et comprendre des choses, et en même temps d'être inclusif pour tout le monde, ce qui est en fait impossible. Enfin, on s'en est vite rendu compte, même si on le savait théoriquement, mais on voulait quand même, on voulait faire au mieux, quoi. Mais donc, on voulait que ce soit le plus, enfin, qu'il y ait le plus de nuances possible, qu'on prenne le plus d'angles différents, et oui, d'être un peu le plus intersectionnel possible. Donc voilà, on sait qu'on n'y est pas arrivé parce que en fait, c'est pas possible en un si court temps, mais ouais, on a essayé de faire au mieux et finalement on s'est quand même plus raccroché à cette question de la vulgarisation parce qu'on travaillait aussi avec mon asso qui travaille en éducation permanente et dont c'est en fait quand même la ligne, enfin c'est un peu ça l'idée de l'éducation permanente, c'est quand même d'être dans la vulgarisation, enfin en tout cas de créer un outil pédagogique, finalement c'est devenu ça. Donc on a quand même gardé plus cette lignée-là, quoi, en faisant au mieux pour avoir de la nuance quand même.
Et est-ce que dans les théories ou dans les entretiens, il y a un élément qui vous a surprise ou étonné ? Un élément que vous avez découvert et vous avez été surprise de l'apprendre ?
Alors, moi, plein. Donc, en fait, je pense que de nous quatre ici, j'étais peut-être celle qui était le moins... la moins... C'est un peu dur de dire ça, mais c'est la vérité, la moins instruite sur le féminisme. En tout cas, hors celui qu'on vit tous les jours, évidemment, hein, mais pour ce qui est des théories féministes. Et moi, ça a été vraiment une claque de lire à chaque fois ce qu'elles écrivaient, parce que déjà, elles venaient avec des sources incroyables, avec des chiffres, avec... des référencements de fou. Donc, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur la taille du féminisme, que je pensais assez restreint finalement. Je pensais que c'était de l'ordre du personnel, de l'intime, mais en fait, c'est terrifiant. Mais comme on le dit beaucoup dans le podcast, c'est à quel point c'est systémique. Et en fait, quand on prend... Enfin, ça, c'est vraiment ce que j'ai appris là-dessus. C'est plus on s'instruit, en fait, de quelque chose, plus on arrive à prendre le recul et à voir tout ça de haut. C'est vraiment... Enfin, de haut, quand je dis de haut, c'est de plus loin, pas supérieurement. Mais du coup, c'est vraiment... c'est assez dingue et ça crée beaucoup de questionnements. Ça permet de prendre du recul soi-même sur ce qu'on vit. Oui, en fait, c'est un vrai outil. C'est vraiment ça. Donc oui, moi, ça a été vraiment une claque, surtout les écoféminismes. Je vous conseille vraiment cet épisode parce que c'est celui qui m'a ouvert les yeux sur... Ah, en fait, il n'y a pas que notre nombril de féministes belges.
Maintenant, on va parler du format du podcast. Est-ce que vous pourriez expliquer un peu quel est le format, le présenter ?
Est-ce que tu peux
expliquer ? Donc, il y a 10 épisodes. Et dans chaque épisode, vous expliquez le pourquoi, vous déconstruisez. Est-ce que vous pourriez parler un peu de...
De la structure. Donc.
Ouais, la structure du, de chaque épisode du podcast.
Ok, c'est moi qui m'y colle. Alors, bon, ben, à la base, il y a la fameuse question qui débute, en fait. Chaque podcast commence avec un petit questionnement. Ça peut être une question, on se dit, tiens, Leonardo DiCaprio a fait un super documentaire sur l'écologie, mais est-ce que chez lui, c'est lui qui fait ses pastilles lave-vaisselle ? Est-ce que c'est lui qui trie ses déchets ? On n'en sait rien. C'est tout des choses comme ça, des petites réflexions qui ouvrent le podcast. Et puis, on enchaîne sur une sorte de petite intro qui met un peu dans le thème. Et en fait, c'est là que l'arborescence commence. C'est que on est amené un peu comme une balade, je dirais, au sein de la théorie. On commence par un aspect qui va aider à comprendre le suivant, etc., etc. Comme le disait Charline, c'est vraiment un ensemble. C'est vraiment, oui, c'est arborescent, en fait, il n'y a pas d'autre mot. Et tout ça pour essayer de conclure à quelque chose qui pourrait être une explication à la question de base, à en fait pourquoi... pourquoi est-ce que c'est monsieur propre alors que c'est madame qui fait le ménage, ou pourquoi c'est Père Noël ou Mère Nature. Donc finalement, en fait, on ne répond pas à la question telle qu'elle, mais on donne toutes les pistes pour la comprendre mieux, en fait, cette question. J'ai l'impression.
Et au travers de ces questions, quelles sont... les sujets qui sont traités dans les 10 épisodes.
Alors, numéro 1. Premier, je vais les essayer, vous allez me compléter.
Vas-y.
Donc sur le premier épisode, c'est sur les rôles de genre. Le deuxième épisode, c'est sur la division sexuée du travail. Le troisième épisode, c'est sur la charge mentale. Le quatrième, si je ne me trompe pas, le troisième...
Tu sais, c'est charge mentale et amour romantique, ça, après.
Non, c'est le 5. Oh,
mais...
Non, j'en
c'est
ai oublié.
C'est pas grave si c'est
un.
Dans le désordre.
Bah, juste... Alors, je vais juste les dire. Ok, donc on a le rôle de genre, la division sexuée du travail, la charge mentale, la question de l'amour romantique, et du coup des liens affectifs. On a les questions des violences de genre, qu'on a surtout ciblées sur les violences conjugales, mais violences de genre de manière générale. Il y a la question du langage, du pouvoir des mots. Il y a la question de la santé, enfin de la santé inclusive, l'espace public, les écoféminismes et le dixième que
La grossophobie.
La grossophobie, tout à fait. Voilà.
Merci. Alors avant d'écouter l'épisode, pourquoi les puéricultrices sont des femmes, je vais vous poser une dernière question. Qui avez-vous interviewé dans ce podcast ? Quel métier, quel type de personne ?
Mmh. Ça dépend. Enfin, chaque épisode, plus ou moins, a une personne interviewée qu'on a choisie en fonction de la thématique.
Et ici, c'était qui
Mais en fait, ici, c'est un peu particulier parce qu'à la base, c'était Aurélie Muloa qui travaille pour Belgian Entrepreneur. Mmh. Donc il y a une femme racisée qui a mis en place un réseau de femmes entrepreneuses noires. Mais en fait, finalement, donc on l'a interviewée et l'interview est disponible sur notre site et sur notre site. Et en fait, finalement, on ne l'a pas intégrée dans cet épisode pour des raisons de captation d'audition, en fait. Mm-hmm. Donc l'interview, donc c'est vraiment particulier pour cet épisode-là. Mais l'interview est quand même disponible et finalement, elle ne se trouve pas dans l'épisode. Mais finalement, dans cet épisode, en fait, il y a deux personnes qui ont fait des interviews pour des autres épisodes, mais qui disaient des choses vraiment intéressantes pour cet épisode-ci. Donc, ils se trouvent dans l'épisode. Et donc, c'est une personne qui s'appelle Nathan, qui est anthropologue et qui travaille surtout sur les questions de masculinité, qui a aussi fait le master genre. Et qui est aussi un artiste qui fait, je pense que, je sais pas comment il se définit exactement, mais en tout cas il fait du rap, je pense, c'est ça, hein, du rap féministe entre autres sur les masculinités. C'est très très bien. Il fait son nom de scène, c'est Chose. Enfin, son projet de scène, c'est Chose. Je vous recommande vivement d'aller écouter. Et une autre personne qui est Louise, qui est une enfant de 10 ans, qui est non-binaire et qu'on a interviewé aussi parce qu'on voulait aussi donner de la place à des profils d'enfants. Voilà.
Ça. Et il y a ma fille aussi.
Oui, alors ça c'est bonus parce que c'est pas une interview officielle, oui, mais il y a en plus la fille de Laurence. Ouais. Voilà.
Mais c'est vrai que pour les personnes interviewées, l'idée c'était en fait de réfléchir qu'est-ce que dans le thème entre guillemets mainstream, qu'est-ce qu'on visibilise pas, quoi, qu'est-ce qu'on voit pas. Et là, par exemple, effectivement, les enfants, ben en fait, on les entend quasiment jamais. Mais aussi, enfin. Là, j'ai pas comme ça d'exemple, mais en tout cas, pour chaque personne interviewée, c'était OK, essayons d'aller plus loin que la binarité et que ce qu'on est en train de vulgariser ici, parce que ce qu'on vulgarise, c'est le système genre binaire. Mais en fait, il y a plein d'autres manières de vivre son genre et d'exprimer voilà, toute son expérience de vie, je dirais. Mais aussi, il y a plein de manières dont le système genre se traduit et opprime certaines personnes qu'on n'entend pas assez souvent, quoi. Et donc, en fait, c'était plus ces personnes-là qu'on voulait interviewer. Et je sais pas si... Enfin, par rapport à la question que tu disais, est-ce qu'on a appris des choses avec les personnes interviewées ? Mais, par exemple, moi, avec Louise, ce que j'ai appris, ou en tout cas, ce qui m'a vraiment frappée, c'est à quel point, au fur et à mesure des générations, les personnes ont d'autres repères, quoi, du système genre. Donc, par exemple, Louise, ici, elle a 10 ans et elle se définit non-binaire. Et c'est tout un système de normes auquel moi, je n'ai pas eu accès, par exemple, à 33 ans, tu vois. Alors, voilà, donc ça, pour moi, c'était juste fabuleux, en fait.
Merci. Alors, on va justement écouter le premier épisode qui porte sur la division sexuée du travail et qui s'intitule donc « Pourquoi les puéricultrices sont des femmes ?» Et on se retrouve dans un quart d'heure, plus ou moins.
Bienvenue dans Pourquoi c'est comme ça, le podcast qui vulgarise les théories féministes. Ce sont les voix de Charles et Gigi qui vous porteront tout au long de l'épisode et qui tenteront de savoir pourquoi les puéricultrices sont des femmes. Dans cet épisode, vous allez entendre le témoignage de Louise, une enfant de 10 ans qui vit à Saint-Gilles et qui aime la vie. Vous entendrez également la voix de Léni, petite fille qui, du haut de ses 4 ans, nous fera l'honneur d'introduire ce podcast. Bonne écoute.
Il y a que des madames dans mon école. Il y a pas de monsieur. Que des madames. Même pour la sieste. Même pour l'école et même pour la cour. Toujours des madames.
Pourquoi c'est comme ça ? Le podcast qui vulgarise les théories féministes.
Dans cet épisode, on va parler de la division sexuée du travail, c'est-à-dire le fait qu'il existe des métiers de femmes et des métiers d'hommes.
Et on va découvrir pourquoi ça pose problème et d'où ça vient. Ah, et petite remarque sur l'intro. On remarque que les institutrices maternelles et primaires sont essentiellement des femmes. Pour le secondaire, on arrive à 50-50. Mais une fois à l'université, les professeurs sont essentiellement des hommes. Intriguant, n'est-ce pas ?
Alors, pour faire un petit état des lieux, je vous cite quelques chiffres. Ça permet de visualiser un peu. Les gardes d'enfants, 95% de femmes. Et les mécaniciens, 99% d'hommes. On a pris les plus gros pourcentages pour l'exemple, mais c'est bien la vérité. Et c'est le cas d'autres métiers, comme les secrétaires médicales, qui sont à 97% des femmes, ou les pompiers, qui sont à 98% des hommes. Alors on pourrait croire que finalement, c'est pas important de n'avoir que des hommes ou des femmes dans certains métiers. Mais en fait, ça change tout.
Prenez par exemple les gardes-enfants, qui sont quasi exclusivement des femmes. Eh bien, cela renforce la croyance que cette activité serait naturellement féminine.
Mais les compétences, que ce soit en mécanique ou en soi aux enfants, elles sont acquises et non innées. S'occuper des autres, c'est quelque chose qu'on apprend et qui est socialement construit et encouragé chez les filles. Ça fait partie de ce qu'on appelle la socialisation genrée.
On l'appelle genrée parce qu'elle nous façonne en tant qu'hommes et en tant que femmes.
C'est en fait l'ensemble des processus par lesquels les individus acquièrent et intériorisent les normes, les valeurs et les rôles qui organisent la vie sociale.
Et tout cela construit l'identité psychologique et sociale de chacun.
Et cette construction se fait via des agents de socialisation, c'est-à-dire tous ces lieux et ces personnes qui nous apprennent la façon dont on devrait se comporter dans notre société.
Un des premiers agents de socialisation, c'est la famille, et ça commence par tous les messages qui nous sont répétés depuis qu'on est né, et à vrai dire même avant notre naissance.
Depuis qu'on est des fœtus, les gens s'adressent à nous de façon genrée. Et en grandissant, on aura des remarques qui montrent ce qui est valorisé en fonction de notre genre. Du style « Que tu es belle avec cette robe » ou « Qu'est-ce qu'il est costaud ce gaillard ?»
Les messages sont dits oralement, mais ils se transmettent aussi par les jouets qu'on propose aux enfants. Des poupées pour les unes et des camions pour les autres.
Et puis, il y a aussi l'entourage. L'entourage direct. On sait que la meilleure des socialisations est celle qui s'opère dans les actions et dans les comportements. On remarque que dans les couples hétérosexuels, les mères s'occupent plus des tâches domestiques et les pères passent plus de temps de jeu avec les enfants.
Les enfants vont assimiler comme si c'était naturel que les femmes prennent en charge le soin des autres et du foyer et que les hommes s'épanouissent dans les loisirs. Et ils et elles vont très probablement reproduire ces comportements.
Parce que pour un enfant en pleine construction identitaire, le modèle des adultes est un puissant agent de socialisation. Et même à l'âge adulte, les proches autour de nous qui se comportent de telle ou telle manière, ça nous répète ce qui est conforme ou pas pour notre genre.
Ça indique ce qu'on est censé être, faire et penser.
Qu'est-ce que je fais ici, hein ? Qu'est-ce que je fais ici toute la journée ?
Mais tu fais tourner la maison ? Tu es mère de famille ?
Non, 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 non. Je suis ta boniche. Crois-moi, il vaut mieux être la boniche de Catherine Deneuve que celle de Renaud Lepic.
L'école est aussi un agent de socialisation, où les préjugés de genre sont omniprésents. Ils sont partout. Des préjugés, ce sont des jugements non fondés sur des faits. Par exemple, les filles ne seraient pas bonnes en mathématiques.
Et même ailleurs qu'à l'école, on peut entendre que les femmes ne sont pas bonnes en mécanique, ou qu'elles ont un mauvais sens de l'orientation, ou que les hommes ne sont pas délicats, ou qu'ils ne sont pas capables de faire plusieurs tâches en même temps. On nous répète ça tous les jours, puis on le voit surtout dans les médias, les films, les livres pour enfants, etc.
Et malheureusement, les enfants vont choisir leur orientation scolaire en fonction de ce qui est attendu pour leur genre. Donc le truc, c'est que cette socialisation genrée favorise des stéréotypes de genre. Les stéréotypes sont des généralités qui se vérifient dans les faits.
Par exemple, dans les filières d'ingénieurs, on compte 20% de femmes, tandis qu'elles sont 70% dans les filières de santé et d'aide aux personnes. Aux hommes, la technique, et aux femmes, les relations et le soin.
Donc, si les métiers d'ingénieurs sont des milieux d'hommes, et qu'il n'y a pas de représentation de femmes ingénieures dans les médias ou dans les livres, les filles ne sont pas amenées à imaginer que ce métier est possible pour elles aussi.
En plus, si les filles se voient moins proposer des jouets de construction, de voitures ou de bricolage, elles développent moins ces aptitudes.
Et pour finir, les messages environnants, concernant leurs aptitudes en mathématiques, influencent aussi leur propre perception de leurs compétences. En effet, à compétences égales, les filles se pensent moins douées que les garçons en mathématiques.
Donc on se retrouve avec une majorité d'hommes ingénieurs et c'est le serpent qui se mord la queue.
Pourquoi on dit que le rose c'est pour les filles et le bleu pour les garçons? Pourquoi est-ce qu'on dit que les filles c'est les cheveux longs et les garçons les cheveux courts? Ben ça j'en sais absolument rien. Mais je pense que c'est un vieux truc que les gens pensaient avant et qu'ils ont transmis à leurs enfants. Et il y a des parents qui ont appris à leurs enfants, comme ma maman, que tout le monde peut être comme ils veulent.
Les institutions participent aussi à la socialisation genrée. L'exemple le plus visible, c'est le congé de maternité, plus long que le congé du deuxième parent.
Imaginez que celui-ci soit égal pour les deux parents.
Ce serait un bon frein pour la discrimination à l'embauche.
Reste qu'il faut que les rôles changent au sein de la famille même, sinon les carrières des femmes restent désavantagées. Hashtag double journée.
La division sexuée du travail est réellement problématique, parce que les métiers dits féminins sont généralement moins bien rémunérés que les métiers dits masculins.
En fait, tout ce qui est lié aux activités pensées comme naturellement féminines est dévalorisé. Mais lorsque les hommes font ces activités, alors là c'est le prestige. Par exemple, une femme qui cuisine tous les jours, c'est banal, peu reconnu. Tandis que les grands cuistots sont majoritairement des hommes. Les grands couturiers, Chanel, Dior, sont beaucoup plus applaudies que les couturières qui produisent et réparent la plupart de nos habits de tous les jours. Les activités dites féminines sont dévalorisées car quotidiennes, consommables, renouvelées à l'infini. Elles ne laissent pas de traces. En tout cas, on décide de ne pas l'avoir.
Cette dévalorisation symbolique fait que ce travail est sous-payé, voire même gratuit. C'est le cas du travail domestique, des soins aux enfants, aux personnes âgées ou aux personnes en situation de handicap. Dans les familles avec plusieurs enfants, on remarque que ce sont majoritairement les sœurs qui s'occupent de ces tâches. Les personnes qui s'occupent des autres, on les appelle les caregivers. Et dans les pays de l'Union européenne, 92% des femmes sont régulièrement des aidantes.
Je passe ma vie à courir à gauche, à droite, au milieu. C'est pas pour aller faire les courses, c'est pour aller chez le teinturier ou à la poste. Quand je reviens de la halte garderie avec le petit sous le bras, allez hop, j'emmène Charlotte chez l'orthodontiste, où c'est le son de piano. Sans compter les repas, si je vous disais que je sais plus quoi leur faire à manger. Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on mange?
On se demande alors comment cela se fait que l'État intervienne si peu dans ce domaine. Car après tout, la société humaine existe grâce à ce travail. Les enquêtes emploi du temps montrent que les femmes en Belgique font au minimum 2/3 des tâches domestiques de la maison. On parle pour cela du concept de double journée. Un travail reconnu et rémunéré, puis, en rentrant à la maison, un travail invisible et gratuit.
Et lorsque des femmes ont le même temps de travail que leur conjoint, elles prennent quand même plus en charge les tâches domestiques. Dans les couples hétérosexuels, c'est généralement elles qui prennent un temps partiel parce qu'elles ont un salaire plus petit que celui de leur conjoint. Et donc, logiquement, c'est elles qui réduisent leur temps de travail pour s'occuper des enfants s'il y en a.
Et pour rappel, l'écart salarial entre les hommes et les femmes, pour un même poste, est toujours d'actualité. Et il équivaut à 5% en Belgique.
Du coup, les femmes prendront plus en charge le ménage et le care, et les enfants auront cet exemple à la maison, ce qui influencera leur perception genrée de qui fait quoi à la maison. Et à nouveau, la boucle est bouclée.
En plus, vas-y pour faire exploser ta carrière avec un temps partiel et une tête dans la vaisselle. Mais c'est pas tout. Comme Titu Lecoq, autrice féministe, nous le dit, les femmes, elles restent plus à la maison. Pour cela, elles font plus de dépenses invisibles, comme les courses quotidiennes, les vêtements pour les enfants. En somme, toutes des courses qui ne valent plus rien une fois consommées. Les hommes, qui ont souvent des postes plus prestigieux avec un plus gros salaire, ils s'occupent des plus grosses dépenses, qui sont également plus pérennes. Les voitures, les prêts locatifs. Et en plus, c'est des dépenses qui leur servent même après un divorce. Je rappelle, un mariage sur deux.
Donc on peut dire que la socialisation genrée mène à la division sexuée du travail, qui elle-même mène à plus de précarité chez les femmes.
Et puis habituellement, les femmes qui peuvent se permettre de déléguer le travail domestique et de soins le font en employant d'autres femmes.
Et du coup, les activités du care restent féminines, et les femmes racisées, immigrantes ou précarisées se retrouvent plus souvent aides ménagères, nettoyant le domicile d'autres femmes, plus souvent blanches et issues de classes socio-économiques supérieures. Ça montre qu'il existe des rapports de pouvoir au sein même de la classe sociale des femmes.
Voilà pourquoi le genre, il n'est jamais analysé tout seul.
On s'est rendu compte, grâce à l'IRM, que nous avons tous des cerveaux différents. Nous sommes 6 milliards d'individus sur la Terre, ça veut dire 6 milliards de cerveaux différents, puisque 6 milliards de personnalités différentes. On s'aperçoit que finalement la différence entre les individus d'un même sexe est tellement importante qu'elle va gommer la différence entre les hommes et les femmes.
On les entend déjà, les gens qui nous diront que les hommes et les femmes sont biologiquement différents.
Ouais, il existe une croyance profondément ancrée dans notre société, selon laquelle les femmes seraient naturellement altruistes et douces, et qu'elles seraient donc plus aptes à s'occuper des autres.
Bullshit. Ça s'appelle de l'essentialisme. C'est un mode de pensée selon lequel il y aurait des caractéristiques innées du genre masculin ou féminin. Par exemple, les femmes seraient par essence multitâches, et ça serait inscrit dans leur gène.
Et on sait qu'une pensée essentialiste est au cœur de nombreuses idéologies discriminatoires, parce qu'elle justifie des inégalités sociales. Du style, s'il y a plus de femmes qui s'occupent des enfants, c'est dans leur gène, circuler, il n'y a rien à voir.
Oui, en plus, dire que c'est inné, en fait, ça permet de ne pas questionner les inégalités sociales, et donc juste de les reproduire.
Surtout qu'on l'a vu ensemble à quel point, dès notre naissance, nous sommes influencés par les agents de socialisation. Les cerveaux multitâches et ceux qui ont un sens de l'orientation, ça tombe pas du ciel. Nos corps, et donc aussi nos cerveaux, changent en fonction de ce qu'on fait. Les connexions neuronales, les muscles et même les sécrétions d'hormones changent en fonction des comportements répétés qu'on a. Alors au final, oui, on les développe, ces compétences genrées.
Reste plus qu'à conscientiser cela et travailler pour s'améliorer comme on travaillerait n'importe quelle partie du corps en salle de muscu.
Une société ne peut aller mieux que si chacun à l'intérieur de cette société se sent mieux, que si chaque homme, chaque femme, je dirais, incarne sa féminité, sa masculinité comme il en a envie et pas comme les modèles le désignent.
Ce qu'on a envie de souligner dans cet épisode, c'est que la division sexuée du travail, c'est systémique. Individuellement, c'est toujours très énergivore d'aller à contre-courant. Une première étape serait alors de souligner ces discriminations et de conscientiser ces privilèges. Reconnaître l'inégalité, c'est en fait se donner les cartes pour avancer.
Pour ce qui est du niveau politique, il est temps de reconnaître et de valoriser symboliquement et financièrement tous les métiers qui favorisent une communauté en santé, comme les soins aux enfants, les entretiens, le nettoyage, etc.
Et aussi, tout le monde, et donc les hommes aussi, peut s'y mettre à militer et revendiquer un congé parental obligatoire pour chaque parent. Et cela peu importe le genre. Ça permettra de tacler la discrimination à l'embauche.
La diversité dans les instances de pouvoir est aussi primordiale.
Si on imagine un homme blanc grisonnant quand on parle d'un CEO, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'ils y sont en effet plus nombreux.
Et ce sont des postes de pouvoir et décisionnels qui d'une part sont mieux payés, mais aussi qui peuvent permettre un changement structurel.
Après, la parité est nécessaire. Mais elle n'est pas suffisante. Il ne suffit pas d'être une femme pour remettre en question la division sexuée du travail.
Ça prend un temps d'arrêt et de recul sur notre culture. Et ça, c'est difficile dans une société qui tourne à mille à l'heure. Nous sommes imprégnés de cette culture inégalitaire. Alors le changement va prendre du temps. L'important, c'est d'en prendre conscience ensemble pour penser une société équitable pour toutes et tous. On peut chacun, chacune, se dire qu'on montre des modèles pour les enfants avec nos comportements, dans la famille comme ailleurs. Et au plus on fait des choses différentes, au plus ils et elles se disent que c'est possible pour elles aussi.
Un podcast de Charline Marbet, Diada Ferrero, Lise Mernier et Laurence Denaring. Produit par Corps Écrit et Supernova Film Lab. Avec les soutiens de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes, de la politique fédérale de l'égalité des genres, de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Loterie Nationale. Réalisé par Laurence Denaring. Écrit par Charline Marbet, Diada Ferrero et Lise Mernier. Prise de son et musique originale, Loïc Le Foll.
Vous écoutez toujours Radio Panique. On vient d'écouter l'épisode du podcast qui s'intitule « Pourquoi c'est comme ça ?». Alors on va continuer l'interview. Nous sommes toujours avec la réalisatrice qui est Laurence Denaring. Et les autrices qui sont Charline Marbet, Lise Mernier et Diada Ferrero. Alors, on a encore une question. Comment avez-vous financé la réalisation du podcast? Parce qu'on se demande toujours comment, où on va chercher l'argent pour réaliser un podcast ou même un court-métrage. Comment vous vous y êtes prise?
Alors, on a eu beaucoup de chance parce qu'on a eu beaucoup de sous, ce qui est effectivement plutôt rare. Mais donc en fait c'est passé par le fait que c'était produit par Corps Écrit qui est donc une ASBL et donc via cette ASBL on a répondu à un appel à projet qui avait été généré par l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes qui s'appelait Tant qu'il faudra et donc ça a été financé en grande partie par cet institut là donc qui nous a donné de l'argent pour faire un projet sur un peu moins d'une année quoi. Et donc ça, c'est la politique fédérale à l'égalité des genres. Et on a eu en plus un subside supplémentaire de la Loterie Nationale qui, là, aide beaucoup les productions audiovisuelles. Et la Loterie Nationale, c'est soutenue par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc, enfin, c'est interconnecté, quoi. Et donc ça, c'est le fait d'être une ASBL et de pouvoir demander des subsides via ça. Mais c'est vrai que c'est pas évident hein, de trouver de l'argent. Donc il faut soit trouver via des associations qui peuvent demander des aides via des appels à projets, soit des fonds. Alors là, je connais pas parce que moi, je suis dans le milieu associatif, mais peut-être, Laurence, tu sais un peu plus dans l'audiovisuel.
Dans l'audiovisuel, au niveau des podcasts, je connais vraiment pas bien. Mais à part des bourses, c'est vraiment des montants un peu ridicules finalement comparé à tout le travail. Je crois que c'est des 1000 ou des 2000 euros, enfin, ce qui est déjà magnifique. Hein. Mais oui, c'est produire un podcast, c'est pas évident ici. C'est clair qu'on a eu beaucoup de chance.
Ouais, j'ajouterais aussi que c'est énormément de travail en fait pour faire l'appel à projet et puis après pour devoir justifier, etc., les finances et tout. En fait, c'est un job en soi, quoi.
Ouais, je rajouterais aussi qu'on a eu de la chance et en même temps, ça devrait être comme ça parce qu'on a pu se rémunérer plus ou moins correctement à la charge de travail qu'on a eue. Alors qu'en fait, dans la plupart des cas, pour les productions audiovisuelles, mais en fait pour des productions créatives un peu plus globales, la plupart des gens travaillent bénévolement toute une partie. Et si on a de la chance, ok, on a 2000 euros par-ci qui permettent de payer un tout petit peu, voire enfin, quasi rien, quoi. Donc là, on a pu plus ou moins se payer décemment, ce qui est quand même chouette pour un podcast féministe où on a quand même envie de, bah oui, d'être rémunéré pour le travail qu'on fait.
C'est vrai qu'il y a aussi le... Enfin, là, j'y pense, nous, ça rentrait pas trop dans le timing, mais il y a le fonds radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la RTBF, si je me trompe pas. Mais ça, c'est une manière aussi, je pense, d'avoir accès à des subsides. Voilà, ça n'a pas été le cas chez nous, mais c'est une voie, une autre voie.
Et oui, et moi je pense aussi au fait d'être produit par des radios officielles, comme la RTBF par exemple.
C'est des coproductions.
Voilà, des coproductions, ouais. ça permet alors d'avoir des financements, mais bon, c'est encore un autre processus de, pour y accéder.
Le podcast n'est disponible que sur votre site web ou il va être diffusé?
Il est déjà sur radio. Alors au niveau des radios, du coup ici sur Radio Panique et on va être sur Radio 27 aussi. Mais sinon, il est disponible dans à peu près toutes les plateformes d'écoute de podcasts, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, etc. Et sur notre site internet.
D'accord.
On va passer un morceau de musique, c'est ça que tu veux ?
Oui. Vous avez choisi une musique, vous nous en avez proposé une. Ça s'appelle Grandiose. Je ne sais pas laquelle d'entre vous l'a proposé.
Moi, Lise.
Lise, ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu sur la musique ? Est-ce qu'elle a un lien avec
Elle n'a pas un lien spécifiquement avec l'épisode, mais c'est une musique qui a été faite par Pomme. C'est une artiste que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Donc, c'est une artiste française qui est du coup une chanteuse. Je ne sais pas comment elle se définit exactement, mais je pense qu'elle est bisexuelle et peut-être homosexuelle, je ne sais pas. Et je trouve qu'elle fait des chansons qui sont... Enfin, moi, elle me touche beaucoup. Elle a des textes qui sont super forts et en même temps qui sont assez simples comme ça. Et elle traite de sujets, je trouve, assez... ouais, de manière assez subtile, tout en n'étant pas hyper... je sais pas, dans sa médiatisation, elle en fait pas non plus un cheval de bataille. Enfin, elle n'a pas un militantisme qui est hyper... revendiqué comme ça dans sa médiatisation et en même temps je trouve qu'elle est hyper, hyper politique dans ses textes et dans sa musique.
Et ouais. Sa voix est trop belle.
Et sa voix est incroyable.
Et elle est trop belle.
On l'aime quoi.
On l'écoute.
Depuis que je n'ai pas le droit, je veux un enfant dans le ventre. J'aurais sûrement dû taire parfois l'envie si grande et menaçante. Depuis que mes amis me mentent, qu'ils disent que je suis comme les autres, je veux un enfant dans le ventre, qu'on s'aime, qu'on ait une vie grandiose. Grandiose, la vie que j'avais inventée. Première goutte de sang, les bouches qui s'effleurent dans la cour.
Vous écoutez Radio Panique et aujourd'hui on parle du podcast qui s'intitule « Pourquoi c'est comme ça ?». Alors on va annoncer les prochains épisodes. Aujourd'hui vous avez écouté l'épisode sur la division sexuée du travail. Lundi prochain, le 23 octobre, on diffusera l'épisode qui porte sur les rôles de genre et la grossophobie. Le 30 octobre, ce sera l'épisode sur le genre et l'espace, ainsi que sur le mythe de l'amour romantique. Le 6 novembre, ce sera l'épisode sur la charge mentale et celui sur la santé inclusive. Le lundi 13 novembre, vous entendrez l'épisode sur les violences de genre et celui sur le pouvoir du langage. Et enfin, le lundi 20 novembre, vous entendrez l'épisode qui porte sur les écoféminismes. Alors, on a encore une question qui porte sur le site web. Comment vous avez eu l'idée, pourquoi avoir créé un site web en plus du podcast, un site web qui fournit de la documentation et des informations? Pourquoi l'avoir créé en plus du podcast?
C'était vraiment hyper important pour nous d'avoir ce site web parce que, comme je l'ai dit avant, on a pensé le podcast comme un outil de réflexion, mais pour aller plus loin. En tout cas, de donner l'envie aux personnes d'aller plus loin. Et donc, on avait envie de pouvoir leur donner en fait, cette plateforme qui permettait d'aller plus loin. Et donc, sur ce site web, en fait, on a mis plein de choses. On a mis des ressources pour tous les épisodes, pour aller le lire, pour aller s'informer, etc. On a mis aussi les épisodes, évidemment, et les interviews en entier, parce que c'était aussi important pour nous qu'on puisse écouter l'entièreté des interviews et vraiment écouter ce que les personnes qui ont été interviewées avaient à dire. On a aussi mis la retranscription écrite de tous les épisodes pour que les personnes sourdes ou malentendantes puissent aussi avoir accès. On a mis un lexique aussi qui permet vraiment, parce qu'il y a pas mal de vocabulaire et comme Jadel a dit juste avant, on a pensé les épisodes dans un certain ordre où on définit au fur et à mesure des termes, mais c'est vrai que tout est peut-être pas intégré et puis après on a peut-être pas envie d'écouter les épisodes dans leur, dans la lignée qui a été décidée et de piocher ce qu'on a envie. Et donc en fait le lexique permet de mieux comprendre, de pouvoir s'arrêter, de pouvoir avoir des définitions de termes. Donc ça, c'était important aussi. On avait aussi envie que les personnes puissent avoir un lien, pouvoir nous écrire pour nous dire s'il y avait des choses qui venaient par rapport aux épisodes, que ce soit des ressentis, mais aussi des critiques à nous faire. Enfin, on est hyper ouverte à ce que les personnes puissent aussi nous dire ce qui a amélioré sans vouloir leur donner la charge éducative. Mais voilà, en tout cas, c'était important de pouvoir donner cette possibilité-là. Et donc essayer de rendre en fait ce projet comme outil pédagogique le plus complet possible quoi. Je pense que j'ai rien oublié sur le site. Si.
Non, j'allais rajouter et toujours en évolution quoi.
Et toujours en évolution, tout à fait.
Et l'adresse du site web c'est pourquoipodcast.be.
Tout à fait.
Alors est-ce que vous avez d'autres projets de podcast ou d'autres projets pour la suite? Ou de vulgarisation scientifique?
Alors, dans nos cœurs, je crois qu'on a tout envie de faire une saison 2. Après, pour ce qui est de la concrétisation de la saison 2, on attend des mécènes. Si vous nous entendez sur ces ondes, appelez-nous, contactez-nous sur le site www.pourquoipodcast.be. Mais c'est en cours de réflexion et vu la charge de travail que ça a apporté, ça mérite quand même réflexion. Mais ce serait magnifique, effectivement.
Du temps et de l'argent. Et moi, je rajouterais, pour un peu aller plus loin dans la question, mais qu'on a aussi des événements qui ont lieu par rapport au podcast. Donc le prochain événement, c'est le 25 novembre, c'est dans assez longtemps, mais en fait, on y sera vite. Donc on sera diffusé au Festival Féministe Toi-même. On va diffuser l'épisode sur les violences de genre et on sera accompagné pour ça de Florence Hénaud, qui est une journaliste qui a entre autres fait le documentaire sur le cyberharcèlement qui s'appelle Sale pute, et Ariane, je vais écorcher son nom,
Dierix.
Qui est la directrice de Lilo, parce qu'on a interviewé une personne de Lilo, donc qui est un centre d'accueil pour femmes sans abri à Bruxelles, qui est donc on sera super bien accompagnés, donc je vous invite chaleureusement à venir le 25 novembre à la Tour à Plomb au Festival Féministe Toi-même.
Oui, et si je peux aussi ajouter, pour rester au courant de tous nos futurs événements. Nous avons aussi une page Insta qui s'appelle Pourquoi c'est comme ça, _ podcast.
Et une page Facebook.
Eh bien, merci à toutes d'être venues. On va terminer l'émission par une musique que Lise, tu as proposée, qui s'appelle Bodies. Et c'est une chanson de Lacioronas.
Tout à fait.
Est-ce que tu veux dire quelques mots sur cette
chanson? On n'a pas le temps.
Okay. Je ne peux pas dire un mot. C'est un groupe belge incroyable de femmes. Écoutez-les.
Merci beaucoup.
Merci.
Merci. Merci.
Standards, inflicting images to adhere to, live up to, and perform. And you are cute, blonde, woman white. You may pass unnoticed, out of my focus. You are the norm. You conform to my standards of safety. And you are. You must stop here, undress, explain, again. Again shamed, blamed, confined, defined.
Skin. Do I understand what's
based on what?